Christine de Suède, par Marie de Chambrun, Princesse Lucien Murat. Chapitre 1er. Elle ne regrette personne, excepté peut-être la jolie Eva Spar, qui refuse de la suivre en exil. Entre 11h et minuit, après un festin monstre où l'on but beaucoup trop à sa santé, elle part malgré l'orage qui gronde. « Restez, madame !» murmure tristement Eva en lui montrant le ciel barbouillé de pleurs et son cœur tout agité. « Non, mon rôle est joué. Je ne veux point voir un autre régnant des lieux où j'étais souveraine. » La pluie l'accompagne, ruisselle sur son palais, tambourine sur cette ville qui lui devient étrangère, cette ville où elle a aimé Magnus et Eva. Christine s'enfonce sous les sapins noirs, plus allègre à mesure que les maisons s'éloignent. À Colène, elle renvoie ses femmes, retient à son service 4 gentils hommes seulement, jette sa jupe aux orties, ses rubans et ses dentelles aussi, puis, enfourchant son cheval, s'écrie « Désormais, je veux devenir un homme. » « Hourra, messieurs, me voilà enfin hors de mes états, où j'espère bien ne jamais retourner, » dit Christine, sautant le ruisseau tentateur qui la séparait du pays voisin. Ah, qu'il était avenant le petit ruisseau en marge de son royaume, et quel bonheur pour une reine d'étrenner son indépendance. Christine va donc ébaucher des aventures piquantes, rouler carrosse vers l'inconnu, s'amouracher en route de son prochain ou de sa prochaine au choix, sans que celle-ci ou celui-là réclame, en échange du caprice royal, dignité ou bienfait. À la frontière, l'officier qui diligemment l'avait accompagné selon les instructions reçues, voulut lui transmettre un message du roi. « Parlez vite !» Christine s'impatiente. « Madame, je suis chargée d'offrir encore une fois la couronne à votre majesté et de solliciter respectueusement sa main pour mon maître. Grand Dieu ! Croit-il que je me repente déjà d'être libre ? Allez lui dire que ma liberté vaut mieux que le plus brillant esclavage. Adieu, monsieur. » Et elle fit pirouetter son cheval. Lorsque le messager fidèle rapporta ces paroles à Charles Gustave, celui-ci répondit entre deux soupirs. « Christine m'a fait roi. Mais je serai malheureux toute ma vie, puisqu'elle m'a refusé la gloire de la posséder. » Aussi touchant que soit cet amour obstiné, il n'aime guère Christine. Au détour du chemin, notre coureuse a déjà oublié Stockholm, la cour, le roi. À la première hôtellerie où elle descend, la reine de Danemark, afin d'apercevoir de plus près le phénomène illustre qui intriguait l'univers, se travestit en servante. Elle n'aura pas à s'applaudir de son subterfuge. La fâcheuse idée. Christine, avec malice, parle du Danemark en termes si peu flatteurs que pour ne pas en entendre davantage, la reine s'enfuit précipitamment, laissant tomber le ragoût. Christine s'amuse, chante des couplets salés, babille avec les voyageurs, dort dans les auberges malfamées d'un sommeil qui n'est plus troublé par les mines de ses ministres. À bas l'étiquette. Aucune femme n'est près d'elle. Son valet de chambre, le mieux tourné, lui passe la chemise. Elle peut rêvasser à son aise, sous le nom du comte Donna, sans être importunée par les ambassadeurs en quête d'audience. Avant de poursuivre son voyage, comme ses boucles s'accrochaient aux branches, elle résolut de se faire tondre au plus vite. Quel dommage! Ciseaux en main, le serviteur regardait tristement s'éparpiller la belle tignasse qui adoucissait le visage viril de sa maîtresse. Énervée, Christine lui cria « Coupe, coupe donc, Jean! Veux-tu que j'aie des regrets à mes cheveux après avoir quitté un royaume ?» Et s'emparant d'une perruque d'homme qui traînait, elle l'enfonça jusqu'aux yeux, cala dessus son chapeau garni de plumes, enfila un collet avec une petite cotte qui lui venait à mi-jambe, ficela autour du cou son mouchoir à la soldate et ceignit une épée forgée à sa taille. Pour plaire aux dames, quoiqu'elle n'eût point de barbe au menton, elle relevait de temps en temps une moustache imaginaire et faisait la révérence comme un homme. À Hambourg, les folies commencent. Christine devient la proie des pamphlétaires. On la noircit à Bruxelles, la chansonne à Cologne, la vilipende à Berlin. Elle s'en moque. Rien ne l'amuse davantage que la malignité. Par bravade, elle se calomnierait volontiers afin d'égayer la satire. À Anvers, la reine s'invite chez Gardia de Hilan, négociant portugais. Il y a toujours une providence pour les reines vagabondes, et ce Richard Cossu s'applaudit de mettre sa fastueuse demeure, ses tapisseries tissées de fil d'or et sa bourse rondelette à la disposition de Christine. En échange, il ne demande pas grand-chose. qu'elle lui permette seulement de se tenir modestement derrière sa chaise. Christine se plaît dans cette ville grouillante, où brasseurs d'affaires, armateurs espagnols et flamands s'enrichissent entre deux pots de vin. Les artistes Teignier et Jordance y sont choyés. Au kermesse, ils s'inspirent des ribaudes ventrues attablées devant les bouteilles bedonnantes qu'ils caressent d'une main et peignent de l'autre. La reine curieuse veut tout voir. Son long nez fourré partout, elle furette avec les amateurs du marché aux puces et enrichit ses collections culbutées dans ses bagages. Qu'il est distrayant de se mêler au peuple lorsqu'on est né sur un trône, de dîner en famille chez le bourgmestre Van Almal, au lieu de souper seul, de visiter les monuments avec 9 jeunes fous à ses trousses. Les habitants d'Anvers ne s'entretiennent que de Christine. Passe-t-elle en carrosse, disparaissant derrière les stores, elle s'habille tantôt en homme, tantôt en femme, pour dérouter ses paisibles promeneurs. Quel carnaval! Avez-vous vu la reine de Suède? Je l'ai saluée et j'ai eu l'honneur de lui parler. Elle est petite, elle a une épaule fort grosse, pour ne pas l'appeler bossue. Cet œil est tout à fait irrégulière, elle est voûtée. Avez-vous remarqué sa hanche hors d'architecture? Elle boite, elle a le nez plus long que le pied. Ses yeux sont beaux, peut-être. Mais elle rit de si mauvaise grâce que son visage se ride comme un morceau de basane que l'on met sur le charbon. Tout cela est vrai, mais elle n'a pas la bouche laide. Pourvu qu'elle ne l'ouvre point. À la première extravagance qu'elle débite, elle applaudit à soi-même. Pour une reine, elle n'a pas de soin de ses dents. Avouez qu'elle pue assez honnêtement pour obliger ceux qui s'en approchent à parer de la main. Vous exagérez. Je n'invente rien. Quand elle met une cravate comme les dames, elle ferme sa chemise jusqu'au menton, on dirait un singe déguisé pour divertir la compagnie. Ces flamands ne sont guère indulgents. Exagèrent-ils? Je l'espère pour les amoureux de Christine, car si elle avait des censeurs, elle ne manquait pas non plus d'admirateurs enthousiastes. Ses discours charmants, ses entretiens philosophiques captivaient seigneurs et savants, éblouis par son esprit pétulant et son raisonnement si mâle. Où est cette dame? Demande le grand Condé en arrivant à Anvers, qui a si facilement abandonné la couronne pour laquelle nous combattons toute notre vie sans pouvoir l'atteindre. Christine, elle aussi, n'avait qu'un désir, rencontrer le vainqueur de Rocroi, et rôder dans les tranchées en sa compagnie. Hélas, leur impatience commune se heurta aux formalités d'étiquette. Toujours cette question de préséance qui empoisonne la vie des grands. Comme elle ne consentait pas à accorder au prince de Condé les mêmes honneurs qu'à l'archiduc Léopold, il s'en offusqua et refusa net de venir la saluer officiellement. Mais, ne pouvant résister à la curiosité de la voir, ne fût-ce qu'un instant, il se glissa parmi la foule. Son air martial le trahit. Confus de se voir reconnu, le grand Condé se retira sur le champ, tandis que Christine le suivait tout en l'accablant de politesse. À la porte, se retournant avec humeur, il lui dit d'un ton hautain « Ou tout ou rien, madame !» Ces deux princes, trop fiers pour se comprendre, qui s'étaient encensés dans leur jeunesse, virent tristement leur admiration se dissiper au premier abord. Sans doute, leur laideur réciproque avait brisé l'enchantement. Ils eurent beau se retrouver plus tard à Bruxelles, sur le Mail, le charme était rompu. Don Pimentel vient d'arriver en Brabant. Quelle bonne nouvelle! Il est envoyé par le roi d'Espagne pour complimenter la reine. Il sera là demain. L'aimable rencontre. Deux cœurs débordent d'allégresse. Et voilà que l'ancienne amitié de Christine se rallume ainsi qu'un feu d'artifice. Elle se hâte de faire partager sa joie à la chère Ebaspard. Que mon bonheur serait sans second, s'il m'était permis de le partager avec vous, et si vous étiez témoin de ma félicité. Je vous jure que je serais digne de l'envie des dieux, si je pouvais jouir du bien de vous voir. Mais, puisque je désespère si justement de ce bonheur, il faut que vous me donniez au moins cette satisfaction de croire qu'en quelque endroit où je me trouve, je conserverai éternellement le souvenir de votre mérite, et que j'emporterai, au-delà des monts, la passion et la tendresse que je vous ai toujours portées. Conservez-moi du moins votre cher souvenir, et ne troublez pas la douceur de la félicité dont je jouis, par un injuste oubli de la personne du monde qui vous honore le plus. Adieu, belle. Souvenez-vous de votre Christine. P.S. J'oubliais de vous dire que je me porte parfaitement bien, que je reçois ici 1000 honneurs, et que je suis bien avec tout le monde, excepté le prince de Condé, que je ne vois jamais qu'à la comédie ou au cours. mes occupations sont de bien manger et de bien dormir. Étudier un peu, causer, rire, voir les comédies françaises, italiennes, espagnoles, et passer le temps agréablement. Enfin, je n'écoute plus de sermons. Je méprise tous les orateurs. D'après ce que dit Salomon, tout le reste n'est que sottise, car chacun doit vivre content en mangeant, buvant et chantant. L'ambassadeur d'Espagne, au courant de ses dispositions optimistes, l'incline à abjurer la religion luthérienne. Les commérages vont leur train. Ébruité, il passe la frontière suédoise. Le conseil s'inquiète, s'alarme de cette conversion. La renégate. À cette nouvelle surprenante, le chancelier Oxenstiern se laisse mourir de chagrin. Je lui ai prédit qu'elle se repentirait. C'est pourtant la fille du grand Gustave. Et murmurant son nom, il ferma les yeux pour toujours. Versa-t-elle une larme en souvenir de lui? Les Suédois réclament son retour. Reviendra-t-elle? Pas si bête. On l'enfermerait sans doute afin de la punir d'être papiste. Pimentel en profite pour mettre le grappin sur sa dulcinée et la tenter à sa façon. Si elle devient catholique, tout s'aplanira. Le roi d'Espagne la nommera peut-être gouvernante des Pays-Bas et le pape lui donnera asile. Ceci lui plaît davantage. Elle se souvient que Bourdelot lui avait dit un jour « Croyez mon expérience, en ces temps de controverses, il est plus prudent d'adopter les religions du pays où l'on passe. Un voyageur malin troquera sa foi contre un passeport en règle. » Christine est bien de cet avis. En fait de religion, il ne m'importe guère de croire ce que disent vos ministres. Je baillerai toujours le choix à qui voudra. Après tout, j'ai ouï dire que les cordeliers étaient bons compagnons et que les femmes s'en trouvaient beaucoup mieux que les nôtres de leurs ministres. Malgré ce langage peu édifiant, elle renonce à ses vieilles erreurs. La veille de Noël, on attelle son traîneau doré. Pimentel prend place auprès de Sa Majesté. Christine conduit à toute bride à travers les rues givrées. La crinière de son cheval est pomponnée de rubans chatoyants qui s'envolent et de grelots babillards. Tenue par des laquais, les flambeaux éclairent les passants engourdis qui s'acheminent vers la messe de minuit en esquissant des glissades maladroites. Là-haut, Sainte-Gudule carillonne. Où va-t-elle ainsi, la reine luthérienne, escortée seulement par cette musique céleste? Christine, dans le cabinet de l'archiduc, entre les mains du père Gem, renonce secrètement à la religion de son père. Notre néophyte n'est pas encore bien dévote. Un jésuite de Louvain vient-il la féliciter en lui disant « Désormais, on vous placera entre les saintes, à côté de Sainte Brigitte de Suède. » « J'aime bien mieux qu'on me mette entre les sages, » répond-elle avec vivacité. Mais le pape exige une abjuration solennelle. Christine se soumet. La cérémonie aura lieu à Innsbruck, dans la ville verte aux tuiles d'or, en route vers le pays du soleil. Le 22 septembre 1655, quel fracas! La reine quitte Bruxelles avec magnificence. Que de seigneurs, que d'équipages, que de carrosses. L'archiduc-gouverneur l'accompagne courtoisement ainsi que toute la noblesse, pendant 2 lieues au moins. Appuyé nonchalamment sur ses coussins de velours noir bordés de pierres précieuses, le prince a l'air tout palot. Ses manières de fille contrastent étrangement avec celles de Christine, plus garçon que jamais. De ville en ville, elle caracole à travers les portes triomphales, mange les saucisses allemandes, taquine les filles, barbote dans les torrents, et arrive enfin à Innsbruck, crottée, défrisée, crasseuse à souhait. Elle y débitera au son du canon sa profession de foi dans l'église, au milieu d'une cour de statues, Maximilien repose. Écoute, incline ton oreille, oublie ton peuple et la religion de ton père. Ainsi commence le sermon du chapelain de Monseigneur l'archiduc. Croit-il impressionner Christine? Il se trompe. Elle est distraite par les princes, rois, reines, enroulés dans leur manteau de bronze qui entoure lugubrement le sarcophage impérial. Machinalement, elle les compte. Ils sont 28. De leur socle, ne méprisent-ils pas la souveraine errante? Peut-être. Dans le clair-obscur, il louche de son côté. « Moi aussi, j'appartiens à la canaille des rois, » pense Christine en les défiant. « Mais cette église macabre l'attriste. Bon, à la sortie, pour chasser ses fantômes, on l'honore d'un divertissement. Messieurs, il est bien juste que vous me donniez la comédie après vous avoir donné la farce. » Christine, pourtant, est heureuse. Elle écrit au pape, le 5 novembre 1655, sa joie de lui avoir obéi. Elle l'assure de sa vénération. Elle n'a qu'un désir ardent, servir la gloire de Dieu et atteindre le jour où elle baisera humblement les pieds de sa sainteté. La grâce est-elle glissée dans son âme? Personne ne connaît les complots de Dieu, et si Christine préfère ne pas édifier son prochain, du moins elle pratique la religion qu'elle a embrassée. La reine s'est faite catholique pour vivre à Rome au milieu des statues. Elle ne mérite pas d'en avoir une, a écrit d'Alembert. Pourtant, elle aura sa niche dans Saint-Pierre, seule femme parmi les tiares, encensée éternellement dans un fracas de crosse, d'agenouillement et de bénédiction. C'est peut-être ce qu'elle préméditait. Victoire, académie, traité de paix, toute cette gloire jointe à un esprit transcendant, la rendirent moins célèbre que la conversion tapageuse qui lui ouvrit les portes du Vatican. Rayonnante du haut de son cheval blanc, portant culotte chamarrée, notre Amazone emplumée monte l'escalier de Saint-Pierre en triomphatrice. Sur le parcours, afin de montrer à la reine la grandeur de leur noble maison, les dames romaines étalent leurs richesses sur leur poitrine et scintillent comme des madones. La princesse Colonna, d'après les usuriers qui reluquent ses bijoux, doit valoir 400 000 écus, tandis que la princesse de Rossano porte, éparpillée autour de son col, une fortune d'au moins 2 millions de couronnes. À sa vue, les cambrioleurs éblouis applaudissent et oublient de voler. C'est un beau jour. Voici la reine. Albardier écartait la foule. Les débauchés chatouillent les belles, pincent les pages qui rient aux éclats. On crie, on se chamaille, les perruques s'envolent sur l'obélisque. Vous les rattraperez tantôt. Le cavalier Bernini regarde la reine, bigre. Il ne s'inspirera pas de sa trogne pour sculpter Sainte Thérèse. Le poussin, derrière le cardinal Barberini, est grimpé sur une borne. Les rouges et les violets dansent dans son œil. Il admire les traînes pourprées qui s'étalent ainsi que des pavots. Sur les marches de marbre, cardinaux, évêques, rasés, pommadés, reçoivent pompeusement Christine à la porte de la basilique. Aussitôt des castrats invisibles, saints eunuques, d'une voix angélique, entonnent les louanges de la nouvelle catéchumène. Les éminences conduisent Christine vers le pape. Elle baisse gentiment sa mule. « Relevez-vous, madame. » Sa sainteté la complimente, et d'une tape amicale confirme Christine en la nommant Alexandra. Que de réjouissances au ciel, que de fêtes à Rome. Désormais, la reine a sa place retenue au paradis. Sa sainteté l'a pris elle-même à dîner, invitation qui fit jaser le sacré collège et la garde suisse. Jamais femme n'avait soupé auprès d'un pape. Quel honneur! Selon l'étiquette, 2 tables sont dressées. Le souverain pontife s'assoit sur un siège de velours rouge sous le baldaquin, tandis que la reine se place un peu en contrebas. Don Antonio de la Cueva lui présente la serviette, le comte Santanelli lui verse à boire. Après le premier service, on la régale d'un sermon et d'un sorbet au chocolat. Christine fait la grimace, elle n'aime que les fruits. Elle ne boit pas plus de vin que si elle venait d'abjurer devant le grand mufti. Sa sobriété surprend. Chez elle, tout étonne. Après bien des révérences, elle passa au palais Farnèse, où elle demeura juste le temps de se brouiller avec toutes les princesses romaines. Elle se querella aussi avec Pimentel et voulut faire bâtonner Cueva, qui la ridiculisait derrière sa bosse. L'amour des gens qu'on ne saurait plus aimer, importune. Malgré les exhortations pontificales, sa piété ne faisait guère de progrès. Les catholiques ne se gênaient guère pour blâmer Christine ouvertement. Quant aux Huguenots, ils fulminaient contre cette fille de Gustave Adolphe à genoux devant le pape. Toutes l'accusaient de parler de sodomie avec une éloquence effrontée. Il est vrai que les soirs de lune, elle ne dédaignait pas de déclamer au Colisée les vers licencieux de Martial ou de Pétrone. Les belles écouteuses, étendues sur les gradins, lui faisaient penser à sa chère Eba, plus blanche que les cierges. Sans Eba, son bonheur n'était pas complet. Elle lui écrivit. « Belle, vous suis-je encore aussi chère que je vous l'étais autrefois ? Ne me suis-je pas trompé lorsque je me suis persuadé que j'étais la personne du monde que vous aimiez le plus ? Ah, si cela est, ne me détrompez pas. Laissez-moi plutôt mon erreur. Ne souffrez pas que le temps ni l'absence me privent d'être aimé de vous. Et croyez que, quoi qu'il puisse arriver, je ne cesserai d'être à vous. Adieu, belle. Je vous embrasse 1 million de fois. » Chapitre 2e. Est-ce le dessein de se rapprocher d'Eba? Est-ce le plaisir de faire un tour en France, pays où l'on rit toujours en geignant, qui la pousse à fuir l'Italie? Ou bien la crainte des masques agressifs qui l'injurient à la promenade? Qu'importe, elle part, mais sa bourse est vide. Suédois et Polonais bataillent. On ne paye plus sa pension. Que faire? Il ne lui reste plus un écu. Elle engage ses joyaux pour 10 000 ducats, s'embarque à Civita Vecchia, échappe miraculeusement aux corsaires dont elle croise les galères aventureuses. Le danger, quel stimulant! Elle le frôle et frissonne. Regrette-t-elle un abordage? Les capitans pachas sont des gars solides qui osent violenter leurs captives sur les tapis de Smyrne. Elle aurait volontiers goûté ce piment barbaresque. À Marseille, sur le rivage, le duc de Guise, prince magnifique, courtisan aimable, la complimente de la part de Louis XIV et la traite comme elle aime être traitée avec pompe et galanterie. Après les gentillesses d'usage, le duc envoie ce billet à la cour. La reine est fort civile et fort caressante, parle 8 langues et principalement la française comme si elle était née à Paris. Elle sait plus que notre académie jointe à la Sorbonne, se connaît admirablement en peinture comme en toutes sortes de choses, sait mieux les intrigues de cour que nos courtisans mêmes. Enfin, il ajoute, c'est une philosophe qui n'a rien de femme que le sexe. Elle n'a jamais su se soumettre aux grimaces nécessaires pour jouer la farce féminine, ni même porter les habits pour la représenter. Elle est tout à fait extraordinaire. Comme elle s'en va à Paris, vous en pourrez juger vous-même. Le duc de Guise est ravi de sa mission. Christine le fascine, le distrait prodigieusement. Pour la séduire, il lui fait présent de ses 3 plus belles perruques dont elle se coiffe à la diable. Le voyage se poursuit en gaieté. Tantôt, le duc la précède sur les routes, prépare les réceptions triomphales où les prévôts de Neuville haranguent sa majesté en lui offrant vin et confiture. Tantôt, à ses côtés, il badine, sommeille près d'elle dans le carrosse berceur, car les journées d'août sont brûlantes, et la Provence, avec ses cactus aigriards et ses figues juteuses, invite à la sieste et à la volupté. À Lyon, la reine s'arrêta 9 jours entiers, tentée par la marquise de Ganges. « Ah, si j'étais un homme, lui écrivait-elle après une première entrevue, je tomberais à vos pieds, soumis et languissant d'amour. J'y passerai mes jours, j'y passerai les nuits, pour contempler vos divins appas, et vous offrir un cœur tendre, passionné et fidèle. Puisque cela n'est point, tenons-nous-en, incomparable marquise, à l'amitié la plus pure, la plus confiante et la plus ferme. De mon côté, voilà tout ce que je pense, mais mes brûlants désirs ne sont point satisfaits. Vos beaux yeux, vous le savez, sont les auteurs innocents de tous mes maux. Eux seuls peuvent dans un instant en réparer l'outrage et faire mon bonheur en les adoucissant. Me refuseriez-vous, hélas, de vos regards gracieux? Non, non, aussi sensible que belle, vous écouterez avec complaisance les tendres plaintes de ma douleur profonde, et je passerai le reste de ma vie dans un douloureux enchantement. En attendant qu'une agréable métempsychose change mon sexe, je veux vous voir, vous adorer et vous le dire à chaque instant. Jusqu'à présent, j'ai cherché partout le plaisir et je ne l'ai point goûté. Si votre cœur généreux veut avoir pitié du mien, à mon arrivée à l'autre monde, je le caresserai avec une volupté toujours nouvelle. Je le savourerai dans vos bras victorieux et le ferai durer éternellement. Dans cette douce espérance, je file des jours de vie et mon bonheur s'accroît en pensant à vous. Adressez donc vos prières au ciel, belle marquise, afin que mes vœux soient exaucés autant pour votre félicité que pour la mienne, qui dépend entièrement de vous, pour le présent et pour l'avenir. Christine n'a pas renoncé à devenir un homme. Voyez comme cette idée fixe l'obsède. L'inassouvie court après les sensations qui se dérobent. Chaque fois qu'un visage la bouleverse, que ce soit Eba ou la marquise de Ganges, elle espère connaître le bonheur. Pauvre malheureuse! Mais s'il se trompe encore et toujours, on devine qu'elle a pris bien du plaisir à élaborer pareille déclaration. N'est-elle pas surtout une femme de lettres? Sa plume est son dérivatif. En écrivant cette missive amoureuse à la belle provençale, son imagination l'emporte. Elle croit avoir changé de sexe au ciel et jouit étrangement de cette découverte. Je ne jurerai pas qu'au cours de sa confession épistolaire, ses déceptions sensuelles ne se soient envolées miraculeusement. la reine découronnée ne porta pas bonheur à la séduisante marquise qui mourut empoisonnée par ses beaux-frères jaloux. Mignard nous a conservé ses traits ravissants en dévoilant sa gorge, si digne d'être aimée. Le poète Gilbert l'a chanté. Quelle fureur ont ces dames à me baiser? Est-ce à cause que je ressemble à un homme? Christine est surprise par cette manie de se becqueter hors de propos simplement par politesse sans que le sentiment s'y mêle. Tout l'ébahit à la cour de France, pays des plaisirs et de la folie, écrit-elle à Héba. Les amants y sont plus fourbes, plus empressés, plus volages que partout ailleurs. Ces défauts devraient plaire à notre reine qui, certes, n'est pas une fanfaronne de vertu. Mais comme elle est plus licencieuse que libertine, elle s'en offusque et ajoute. La plupart des Français ne sont propres qu'à pirouetter avec grâce, à faire les sémillants auprès des belles. Excepté Condé, Corneille, Turenne et Pascal, le reste m'a paru vain, frivole, folle. C'est un peuple de jolies poupées. Si les curieux l'entourent, bouche bée, les galants s'esquivent à pas de loup. Voilà qui la chagrine. À Paris, on ne peut souffrir les jacasseuses pédantes. Chaque salon a sa petite reine. L'élu est choisi triomphalement parmi les ninons, les duchesses ou les bourgeoises précieuses. Interrogés hommes de lettres et petits maîtres, ils répondront qu'à ces babillardes, ils préfèrent une silencieuse qui, d'un regard prometteur, se donne à chacun, et d'un coup d'éventail badin, sait censurer l'esprit de ces virtuoses familiers. Étrangères excentriques, ne vous attardez guère ici. Chez nous, l'esprit est casanier. Au XVIIe siècle, il tourne entre la place Saint-Denis et la place Dauphine. Christine divertit. Ses toilettes, ses amours, prêtes au commérage. À sa vue, les conversations languissantes rebondissent. Elle entre, elle plaît, on s'engoue, on l'adule. 8 jours plus tard, autre chanson, elle importune. Ses enthousiastes d'hier la déchirent de bon cœur. Allègrement, elle tient tête aux railleurs, car la controverse ne lui déplaît point. Mais à Paris, elle trouvera son maître. Le duc de la Rochefoucauld lui donne la réplique avec bonheur. Écarté de la cour, le moraliste mondain compose ses maximes. En voyage, la reine écribaille de viriles pensées. Rivalité d'auteur. Ce duel littéraire amuse les courtisans. Attirée par le bas bleu qui dédaigne les fanfreluches, la grande demoiselle, duchesse de Montpensier, la frondeuse cousine du roi, se porte à sa rencontre. Elle se retrouve chez un certain M. Asselin, où Christine passe la nuit avec 2 femmes hideuses qui se vautraient sur son lit et faisaient avec elle la moitié de tout, écrit Madame de Motteville scandalisée. Comme les auberges sont presque toujours borgnes, la reine, selon son humeur, descend chez le premier venu, financier ou seigneur, n'importe, pourvu que la compagnie soit divertissante et que l'autre entretienne un orchestre. Christine est mélomane. Elle ne saurait dormir que bercée par des chansons. À peine retirée dans ses appartements, tôt couchée, elle réclame des musiciens. Les artistes entourent la ruelle. Le concert commence. Il est si fort à son goût que soudain, écartant les rideaux, elle s'écrie « Mort diable ! Qu'il la chante bien !» À l'aspect de cet épouvantail coiffé d'une serviette en guise de bonnet de nuit, les castrats italiens, terrifiés, restent muets et la musique cesse brusquement. Le lendemain, quelle transformation! Christine, poudrée, lavée, peignée, si gentille que la grande mademoiselle s'écrie « C'est un joli petit garçon !» Nos amazones feront bon ménage. Baby sous les charmilles jusqu'à la nuit tombante, où un feu d'artifice tiré en leur honneur vient les surprendre. À la première pétarade, la grande demoiselle s'effraie. Christine se moque. Est-ce possible? Une princesse qui a fait de si belles actions aura-t-elle peur? Je ne suis brave qu'aux occasions, madame. Avouez que c'est assez. Christine rêve, plaît et bosse, envie la gloire du prince de Condé. On dit qu'il est votre bon ami? Oui, madame, et mon parent très proche. C'est le plus grand homme du monde, reprit Christine songeuse. On ne saurait lui ôter cela. Et prenant congé de cette nouvelle amie pour joindre sa majesté, elle lui souhaite de devenir reine de France. Christine connaît la flatterie. Tous ses propos sont répétés au roi. Emporté par son impatience, Louis galope d'une traite avec monsieur son frère jusqu'au château de Chantilly, où Christine soupait en compagnie du cardinal Mazarin. Aussitôt le repas terminé, les princes se glissent parmi les pages. La bonne plaisanterie! Le cardinal, ayant découvert leur tête blonde derrière le balustre du lit, les présente à la reine comme deux gentilshommes de qualité. Tandis qu'il baisse respectueusement le pan de sa robe, elle la relève avec malice. « En effet, ils sont de bonne maison. Je vois qu'ils sont nés afin de porter des couronnes. » Poursuivant l'entretien avec gaieté, elle appelle le roi mon frère et le remercie de l'accueil qu'elle a reçu dans ses états. On ne trompe pas aisément la clairvoyante Christine. Ce roi de 19 ans, mélancolique et sanguin, timide, presque inculte, ne manque ni de dignité ni de courtoisie. La reine, elle, est affrontée et savante. Louis a une douceur aimante dans les yeux. Ceux de notre Amazone sont hardis. Le roi porte avec une élégance superbe l'habit de satin noir brodé d'or et d'argent. Christine, défrisée par le vent, lacée de travers dans un vieux pourpoint déchiré, sordide, ressemble à une bohémienne en vacances. Quel contraste! Et puis la reine de Suède est si instruite. Ne dit-on pas qu'elle pourrait être 7 fois docteur? Le roi de France, par contre, d'après cette Rose de Saint-Simon, abandonné dans son enfance, apprit à lire, à écrire tout seul, sans gouverneur, comme un pauvre gosse, et demeura tellement ignorant des choses les plus connues d'histoire, d'événements, de naissances, de lois, qu'il n'en sut jamais un mot. Dieu merci, il était né sage, modéré, maître de sa langue. Il avait un bon sens naturel qui l'encadra magnifiquement dans des quinconces taillés à la française. Si différents qu'ils fussent, ses souverains aimaient également les louanges, la fame et le commerce des flagorneurs. À cette époque, Louis XIV, jouvenceau, presque chaste, naissait à l'amour dans les bras de Marie Monsigny. Chez la maréchale de la Motte Houdancourt, au Fayet, où la reine Anne offrit à Christine, en passant, une savoureuse collation, celle-ci, placée entre ses deux amoureux, eut au fait de deviner ce tendre sentiment. Ayant surpris leurs œillades, elle se pencha vers le roi, murmurant « Je veux être votre confidente. Si j'étais à votre place, j'épouserais une personne que j'aimerais. » La reine-mère fit la grimace, et craignant l'influence néfaste de Christine, résolut d'abréger le séjour de la royale entremetteuse. Notre voyageuse quitta donc Compiègne le 23 septembre dans un méchant carrosse de louage, attiré par une demoiselle qui demeurait dans les environs et qu'on appelait Ninon, célèbre par son vice, son libertinage et l'agrément si vif de son esprit. Au premier coup d'œil échangé, ce fut le coup de foudre. Christine voulut enlever Ninon sur le champ, l'installer à Rome où elle la présenterait au pape. « Pas si vite, madame. La sage Ninon préfère ses amourettes et ses routines traditionnelles. Personne ne plut davantage à la reine que cette beauté de 37 ans, qui, devenue octogénaire, tournera encore les têtes poudrées, mêlant consciencieusement les générations et se donnant à tous pour n'affliger personne. Quel bon cœur! Ces dames parlèrent passion, plaisir, célibat, dont elles furent toujours des ferventes, et même philosophie. Ninon de l'Enclos était moraliste à 16 heures, libertine à celle des autres. Condé, le duc de Richelieu, Sévigné, fils de la marquise épistolaire, Saint-Evremont et combien de seigneurs huppés glissèrent entre ses doigts menus. Christine espérait joindre à son nom cette liste éclatante et enthousiaste, déclamait les vers composés par Saint-Evremont un soir de ferveur pour cette galante maîtresse. L'indulgente et sage nature a formé l'âne de Ninon, de la volonté d'Épicure et de la vertu de Caton. La reine aurait voulu s'attarder auprès de cette prévenante compagne, dans le désordre aimable de cette maison accueillante où il était si plaisant, entre deux soupirs, de rêver, d'échanger des mots scabreux, de jurer étourdiment sans que personne s'en offusquât. Tout s'achève, hélas. La séparation fut tendre, mais Ninon avait le cœur trop négligent pour ne pas oublier Christine redevenue romaine. Chapitre 3e. 2 ans après, la turbulente Christine ne peut rester en place. Rome ne retiendra plus la cynique vagabonde qui ne rêve qu'escapade et fredaine. On lui dit que chaque jour, Paris et la cour s'entretiennent d'un ballet. Un ballet dansé par Louis XIV, Ma Belle, composé par le galant poète Benserade, annoté de la main de Lully, et dont chacun promet merveille. Comment résister à l'appel enchanteur? Le roi y débutera, paraît-il, travesti en Alcibiade, saupoudré des diamants de la couronne. Quelle attraction! Mazarin ne refusera pas à Christine la faveur d'admirer le plus noble mollet du monde, le pied le mieux cambré, exécutant quelques pas de gavotte ou de branle. L'excellent prétexte. La reine de Suède parviendra-t-elle cette fois à extorquer 900 000 écus à ce roquet de Mazarin? Peut-être. Mais le cardinal, aussi avare pour la France que pour lui-même, préfère câliner sa créancière, ajourner la dette avec des boniments. Christine espère aussi être la médiatrice officieuse choisie pour négocier la paix entre la France et l'Espagne. Depuis qu'elle ne s'assoit plus sur un trône, on paraît oublier son génie politique. Louis XIV, déjà galant, lui offre l'hospitalité dans son domaine de Fontainebleau, où Serre et Biche se donnent rendez-vous. Le 15 octobre 1657, la duchesse de Montpensier chassait avec son équipage aux alentours du château lorsqu'elle rencontra la reine au bord de la route, flanquée de ses deux acolytes, le chevalier Santinelli, son capitaine préféré, et le marquis Monaldeschi, grand écuyer, l'un et l'autre sujet de l'Église. La grande demoiselle, consternée, eut peine à reconnaître dans cette femme rembrunie la folâtre amazone de naguère. « Ce jour-là, dit-elle, je la trouvais aussi laide que je l'avais trouvée jolie la première fois que je la vis. » Hélas, Monaldeschi partage cet avis, ce fut sans doute la cause de son malheur. Ils n'ont qu'une médiocre réputation, ces deux Italiens que Christine traîne à sa suite, Santinelli et Monaldeschi, hâbleurs, jaloux, querelleurs, l'épée toujours impatiente. À Rome, ne recèdent-ils pas les sbires du pape dans les rues? En France, ils se disputent la bourse et les faveurs de Christine qui les traite comme des valets. Dans ce carrosse de louage appelé Carabas, face à face, Nogrenin mâchonne une haine rancunière qu'il ne dissimule même pas. Agacé, Monaldeschi éclate en récrimination. « Quel voyage! J'en suis excédé! Impossible de se saouler! La reine n'a jamais soif! A-t-on faim? Elle brûle les étapes, alors je me serre le ventre! Pas la moindre tranche de venaison, pas une truffe, ni un céleri, ni un cul d'artichaut, afin de réveiller le courage défaillant, et pourtant... À chaque coucher, Sa Majesté m'ordonne de batifoler à sa manière, hélas, sur commande et sans appétit. Avouez que pour gentilhomme, le programme est peu reluisant. Ce voyage à trois exaspère les deux compères. Monaldeschi, témoin des avances que sa maîtresse fait à Santinelli, médite un moyen de le perdre. Il supporte mal les agaceries de la reine, mais refuse de renoncer à ses bonnes grâces. Cas à cas, à travers les chemins boueux, nos voyageurs débouchent sous bois. La forêt, coiffée d'une perruque rousse, sent la fougère piétinée, le champignon moisi et la rouille. Traverse-t-on une clairière, Christine admire les nuages à la Rigaud, drapés au hasard des vents dans un ciel lessivé. Santinelli médite les confidences de la reine. Monaldeschi regrette une brunette laissée hors Orvieto et, pour se distraire, compte les peupliers qui aboutissent fatalement à un pavillon quelconque. Oui, madame. Le hasard pose toujours sur le seuil inconnu une friponne qui me fait signe. Christine a épié le yard et fronce son sourcil olympien. À ce moment, sinistre présage, trois piles les précèdent en sautillant. Une cloche invisible tinte, le château rouge apparaît incendié par le soleil, l'eau frileuse du bassin se plisse, un cygne noir bat des ailes, Monaldeschi frissonne, ils étaient arrivés. Christine loge à la conciergerie. Au commencement de novembre, peu après la fête des morts, la reine trouve dans son courrier un billet étrange, bien mystérieux, qui la met sur ses gardes. « Madame, méfiez-vous, votre écuyer vous trahit. » Avec quelle fièvre elle furette, fouille, cherche les preuves de la perfidie. Ah, qu'elle voudrait que le message anonyme fût mensonger. À force de bousculer les bahuts, elle découvre enfin, enfoui dans une cassette, plusieurs brouillons dont elle reconnaît l'écriture contrefaite. Le fourbe n'avait-il pas eu l'audace de singer l'écriture de Santinelli? Cette imprudence lui coûtera cher. Dans sa lettre, Monaldeschi se gossait de Christine, ridiculisait son corps fantasque, décrivait la reine capricieuse. À la bien-aimée italienne, sa confidente, il racontait le dégoût que cette infirme lui inspirait aux heures d'abandon, lorsque, irritée par son désir, elle s'imaginait, naïve débauchée, lui avoir fait perdre la tête. Avec l'habitude, je crois que les infidélités se pardonnent et peut-être s'oublient. On prétend même que certains gourmets les recherchent parfois comme ces piments d'Espagne qui emportent la bouche. Un amant ne sera jamais tant aimé que lorsque sa maîtresse s'abandonnera dans les bras d'un autre pour mieux se souvenir de lui. L'inconstance n'existe que dans la pensée, mais une femme orgueilleuse, qu'elle soit reine ou soubrette, peut-elle absoudre la trahison d'un indiscret qui est-elle crûment les imperfections de sa maîtresse pour divertir une rivale? Christine n'est pas jalouse, c'est son orgueil blessé jusque dans sa chair vive qui crie vengeance. Jamais elle ne pardonnera. L'art de se venger est peu connu, dit-elle. Un esprit bien fait ne doit jamais ni se repentir, ni pardonner, d'autant plus que la repentance et le pardon sont toujours accompagnés de lâcheté. Aussitôt sa résolution prise, elle compose son drame avec une froideur calculée. Pour endormir la méfiance de son écuyer, elle le caresse. Monaldeschi, surpris par ses tendres et si inaccoutumés, a peur. Voulant rejeter sa faute sur Santinelli, il s'approche de la reine et n'a-t-il pas l'audace de lui dire en face « Votre Majesté est trahie, elle connaît le coupable. » Christine, étonnamment calme, lui répond avec hypocrisie « D'après vous, quelle peine mérite cet homme ?»« Madame, ne soyez pas indulgente, il doit être puni de mort sur le champ. S'il le faut, j'en serai l'exécuteur. » « Ai-je bien entendu ? Mon ami, c'est vous-même qui avez prononcé son jugement. Souvenez-vous-en. Je vous déclare que je me ferai bientôt justice. » Et gentiment, elle renvoya le marquis dans sa chambre. « Quand un prince est obligé de faire mourir quelqu'un, écrit-elle, il faut que ce soit d'une manière si juste que le criminel soit forcé d'avouer qu'il a mérité la mort. » Le 6 novembre, la reine, fidèle à ses principes, fit appeler le révérend Père Lebel, prieur de la Sainte Trinité, qui demeurait dans son couvent, non loin du château. Au bout d'une heure, celui-ci arriva tout courant. « Qu'est-ce que votre Majesté désire de son humble serviteur ?»« Mon père, vous portez un habit qui m'oblige à me fier à vous, sous le sceau de la confession. Promettez-moi le secret de ce que je veux découvrir. » »« Madame, si je suis aveugle et muet pour tous, à plus forte raison le serai-je lorsqu'il s'agit des intérêts d'une princesse aussi illustre. » Alors la reine remit au moins un paquet de lettres cachetées avec soin, en lui recommandant de les rendre en présence de la personne qu'elle désignerait, ce qui ne saurait tarder. En effet, 14 jours après sa visite, tandis que le père Lebel sortait du réfectoire, un serviteur vint le quérir. Il était 1 heure de l'après-midi. À peine est-il introduit dans la galerie des serres que la porte se ferme si vivement derrière lui qu'il s'en étonne. La reine, au milieu de la galerie, plaisante avec Monaldeschi, sa voix joyeuse résonne étrangement dans cette grande salle glacée par le vent d'automne. Dans l'embrasure d'une fenêtre, 3 hommes, l'épée nue, semblent attendre. Le père fait sa révérence à la reine, s'incline devant le marquis et remet à Christine le paquet qu'elle lui a confié. « Marquis, connaissez-vous cette lettre ? Répondez. » À la vue du fatal papier, le grand écuyer pâlit. Ses lèvres se décolorent, il est livide. « Ne voulez-vous pas reconnaître cette lettre ?» reprit doucement Christine. « Écoutez-moi, madame. » Et se sentant perdu, il rejette la faute sur plusieurs autres. « Ayez pitié de moi !» Monaldeschi pleure, gémit, se lamente, baise la robe de la reine, se traîne à ses pieds, implore sa grâce. Sans se troubler le moins du monde, Christine se tourne vers le prêtre. « Mon père, voyez, soyez témoin. Je donne à ce traître le temps qu'il veut pour se justifier. » Mais bientôt la patience royale se lasse, Christine se retire en disant au moine « Je vous laisse cet homme, disposez-le à la mort, je ne veux pas tuer son âme. » Épouvanté, le père unit ses supplications à celles du coupable. « Non, mon père, le traître est plus criminel que ceux qui sont condamnés à la roue. Je le regardais comme un frère, je lui ai communiqué mes plus secrètes pensées. Qu'en a-t-il fait ? Je ne puis lui pardonner, qu'il meure. Mais, madame, reprit respectueusement le père, n'êtes-vous pas dans la maison du roi de France ? Je supplie votre majesté d'éviter cette exécution qui passera aux yeux des hommes pour violente et précipitée. Faites un acte de miséricorde envers ce pauvre marquis, ou remettez-le à la justice du roi. Et quoi, mon père ? Je ne suis pas une captive réfugiée. Je suis si maîtresse de mes volontés pour faire justice à mes domestiques en tout temps, en tout lieu. Je ne réponds de mes actions qu'à Dieu seul. Je le ferai savoir au roi. Il sortit de la galerie, les yeux secs. Marquis, demandez pardon à Dieu, il faut mourir. Santinelli, de son épée pointue, pique le malheureux adossé contre la muraille. Monaldeschi pousse un cri perçant, tombe dans les bras secourables du père Lebel qui l'exhorte, tandis que le condamné se confesse, mea culpa, mea culpa. Les mots latins s'entrechoquent. entrecoupé de clameurs et de sanglots. Les yeux fixés sur la porte, il écoute. Est-ce la reine ? Il croit entendre son pas. La main qui l'a caressée ne va-t-elle pas d'un geste lui épargner la vie ? Hélas, le silence seul emplit le château indifférent. Assez lambiné. Je dois exécuter mes ordres, dit le capitaine en lui portant hardiment un coup à l'estomac. L'épée glisse et se fausse, le marquis chancelle, part de la main droite. Dans cette lutte, les trois doigts coupables sont tranchés. « Mon père, mon père !» hurle la victime, « je ne veux pas mourir. »« Souffrez, mon enfant, la mort pour vos péchés, la miséricorde est de l'essence divine. » D'une voix éteinte, pour abréger ses tourments, Monaldeschi avoue que sous son pourpoint, il a revêtu une cotte de maille. Ses brutes, exaspérées, tailladent son beau visage, déchirent sa peau si douce, brisent ses os, défoncent son crâne. L'infortuné tombe sur les dalles rougies. Couché dans son sang, le galant éconduit fait signe qu'on lui coupe le col. Les lâches. Alors un de ses bourreaux dégaine une dague droite et lui perce la gorge. Monaldeschi ne parle plus. Respire-t-il encore ? Oui, il agonise doucement et perdant tout son sang, expire. Il était 3h15. Dans le jardin qui entoure la galerie, les trois piges casseuses étaient revenues. La reine fit enterrer le cadavre à la paroisse d'Avon, sous une pierre noire près du bénitier, et fit sonner le glas tout un jour. Elle murmura ensuite « La mort seule est chaste » et oublia l'infidèle. Mais le sang de Monaldeschi poisse, éclabousse, les dalles de la galerie se lavèrent plus aisément que la réputation de Christine. Ce n'était pas, écrit Voltaire, une reine qui punissait un sujet. C'était une femme qui terminait une galanterie par un meurtre. Ces femmes perverses, attirées par les paradis artificiels, sont plus souvent sanguinaires que les autres femmes. Rarement accessibles à la pitié, elles ont moins de sensibilité et cherchent parfois dans leur vengeance une jouissance. Un homme a-t-il manqué à l'honneur ? Sa mort ne les touche guère, et puisque les inassouvis ignorent la reconnaissance charnelle, elles se révoltent volontiers contre l'imbécile peu apte à leur accorder un plaisir inédit. Mais, si Christine n'a aucun remords, si elle trouve le meurtre de Monaldeschi naturel et traite de faribole les critiques de ses contemporains, la reine de France est scandalisée, la cour horrifiée. Aussitôt que la nouvelle parvient à Mazarin, il envoie à Christine, l'évêque de Fréjus, pour lui demander de rejeter la responsabilité sur l'indigne serviteur qui a outrepassé ses ordres. Avec quelle hauteur la reine répond au messager que tout a été voulu et conduit par elle. Mais comme elle ne veut plus rester en pénitence à Fontainebleau, elle renvoie Santinelli. Si votre majesté vient à Paris, je crains qu'elle ne soit exposée à des froissements et peut-être à des affronts qu'il est plus sage d'éviter, lui déclare l'évêque de Fréjus. Christine ne renonce pas pourtant à son projet. Elle appelle son vieil ami Chanu et lui confie une lettre pour Mazarin où cette fanfaronne se confesse à sa façon. Nous autres, gens du Nord, sommes peu farouches et naturellement peu craintifs. Vous savez que tout homme qui a passé 30 ans ne craint guère les sornettes. Et moi, je trouve beaucoup moins de difficultés à étrangler les gens qu'à les craindre. Pour l'action que j'ai faite avec Monaldeschi, je vous dis que si je ne l'avais faite, je ne me coucherais pas ce soir sans la faire, et je n'ai nulle raison de m'en repentir. Mazarin pardonna. Le marquis italien n'était après tout qu'un sujet du pape qui avait fait imprimer des satires fort vilaines contre sa sainteté Alexandre, ce dont il était justement puni. Christine, absoute, s'installe au Louvre dans l'appartement de Mazarin, folâtre, assiste au ballet du roi, court chaque nuit le guilledou avec de jeunes débauchés, s'amuse frénétiquement pendant les jours gras. Les courtisans qui lui ont donné des louanges font-ils grise mine ? Elle méprise leur froideur. Parle-t-elle de son honneur ou de sa gloire ? Elle surprend des ricanements. Il est temps de s'éloigner. Mais avant de partir, elle veut assister à une séance ordinaire de l'Académie. Cette compagnie à leur volage n'a pas encore de demeure attitrée. Elle tient séance tantôt à l'hôtel Mélusine, chez Bois-Robert, tantôt chez le chancelier Séguier, son protecteur. Christine a fixé sa visite pour le jour même. Il s'agit de rassembler ces messieurs. Où sont-ils ? Chez Ninon, chez Madelon ou Lisette ? Corneille, Racan, Chapelain sont introuvables. Les moins célèbres se précipitent pour recevoir la reine au bas de l'escalier. Elle arrive sans cérémonie avec son amie la comtesse de Brégis et son vieux docteur Bourdelot, qui lui rappelle ses premières folies. Toujours taquinée par les lois de l'étiquette, elle demande au chancelier Séguier si les académiciens resteront devant elle assis ou debout. À ces mots, l'avocat Patrus s'insurge. Si on le force à rester debout, il préfère quitter la salle. On consulte les paperasses. Bravo. Monsieur de la Ménardière a découvert un précédent plus ancien que l'Académie. En France, on en trouve toujours. Ronsard ne s'est-il pas assis en face de Charles IX ? Le passé a tous les droits. Les académiciens prennent place autour d'une longue table dans leur grand fauteuil et sourient. Devant la docte assemblée, Christine demande aussitôt « Où est Monsieur Ménage ?» Bois-Robert répond un peu gêné qu'il ne faisait pas partie de l'Académie. Elle s'en étonne. Il est vrai qu'il y avait là tant de conseillers d'État, de surintendants des finances et d'évêques, qu'il ne restait guère de place pour les hommes de lettres. Chacun voulut régaler Christine de son couplet. Le sieur Cotin défendit la Providence en bain vert. Monsieur de la Chambre, médecin du roi, lui a traité de la douleur. Sans doute, les académiciens, comme Pénélope, détruisent chaque nuit leurs travaux pour avoir la joie de s'y éterniser. Ne sont-ils pas immortels? Ce jour-là, on disputait sur le mot « jeu », et en premier exemple, le secrétaire cita la définition « jeu de prince qui ne plaise qu'à ceux qui les font ». Le hasard était cruel. La reine fit mine de rire, plaisanta du bout des lèvres, se reconnut sans doute, évoqua Monaldeschi et leva la séance précipitamment. Le lendemain, elle partait sans esprit de retour, ayant obtenu du cardinal 200 000 livres et l'autorisation de se fixer à Rome au palais Mazarin. Ce voyage n'avait pas été infructueux. Ainsi s'achève Christine de Suède, une étrange voyageuse, par Marie de Chambrun, princesse Lucien Murat.